Hey folks, Jared here. We have another dual language episode for you this week. This is the French language version of an interview with Dr. Frederick Gras discussing EU fishing policy and hosted by Alexia Boulagi. Alexia also edited and produced this, and for our French-speaking audience, you'll be getting a lot more of her in the coming weeks as she's recorded a few more French language podcasts. We are still looking for audio editors to add to our team, so if you're interested, please email us at ccontrol@simsec.org with your resume. Finally, I want to take the opportunity to recommend our partners in the SimSec podcast network, The Bilge Pumps. You can find Alex, Jamie, Drac, and a pile of Iron Brew bottles wherever you download your podcast. On that note, I'll turn it over to Kim Bersma.
You're listening to Sea Control, hosted by the Center for International Maritime Security.
Aloha, camarades de bord, et bienvenue à bord de Sea Control. Aujourd'hui, je suis rejoint par le docteur Frédéric Grard et nous allons discuter de son rapport pour le Conseil européen des relations internationales, intitulé avec un titre des plus accrocheurs, Fish and Chips, la pêche chinoise et la stratégie indo-pacifique de l'Europe. Docteur Grard, bienvenue. Pourriez-vous nous en dire un peu plus tout d'abord sur votre parcours professionnel ?
Bonjour et merci de votre invitation. Je m'appelle donc Frédéric Grard et je travaille pour le European Council on Foreign Relations, ICFR, ainsi que pour la Carnegie Endowment for International Peace à Washington, D.C., après avoir passé une partie de ma vie à travailler pour le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères français.
En guise de rappel, toutes les opinions exprimées nous appartiennent et ne sont représentatives d'aucune institution auquel nous pourrions être autrement associés. Docteur Grard, pour commencer, comment s'est formée votre réflexion autour du sujet et quelle a été la genèse de cet article ?
Il n'y a pas une genèse particulière à cet article. Ça fait très longtemps que je suis évidemment la politique chinoise en Asie, parce qu'elle est absolument essentielle. Et puis, je dirais que peut-être le point de départ de tout ça a été la série d'incidents en mer de Chine du Sud survenus à partir de la mi-juin 2019. Et à partir de là, il était intéressant de s'interroger pourquoi est-ce que ces incidents mettaient en contact les flottes de pêche et pas les flottes de guerre. Pour avoir une réponse évidente et intuitive, mais c'est intéressant de regarder pourquoi, moi, plus spécifiquement. C'était intéressant aussi de regarder comment tout ça s'articulait avec la politique générale des pêches de la Chine, et c'était intéressant de voir quelle était la signification de tout cet ensemble-là. Une question a mené à une autre, et globalement, c'était le point de départ de ce papier.
Vous commencez votre article en écrivant que la politique de pêche chinoise est caractérisée par une exportation de ses problèmes environnementaux et une protection de ses propres zones maritimes. Pouvez-vous nous expliquer comment la Chine articule cette ambiguïté ?
Alors, oui, ce qui m'a frappé au départ de la recherche, c'est de constater qu'il y avait un décalage complet entre la politique suivie par la Chine dans ses eaux territoriales et la politique suivie par la Chine à l'extérieur de ses eaux territoriales. Donc ça voulait dire que d'un côté, il n'y avait absolument aucune ignorance des règlements internationaux ni des enjeux environnementaux et économiques qui en découlaient par les autorités chinoises, mais qu'il y avait une politique délibérée qui conduisait à dire on protège ce qui nous appartient et on est relativement indifférent à ce qui ne relève pas de notre responsabilité. Et de fait, en Chine, la question du dépérissement de la ressource, la baisse de la ressource, n'est pas une question nouvelle. Elle est liée en grande partie aux politiques totalement absurdes suivies pendant toute l'ère Mao Tse-tung et compagnie. Les premiers signes d'un affaiblissement des stocks considérables apparaissent dès la fin des années 50. Et puis, à la mort de Mao, donc il y a toute cette série de réformes qui est initiée pas seulement en matière économique, mais également sur des domaines tels que la pêche, qui consistent à intégrer de plus en plus clairement les régulations internationales pour protéger les ressources dans la zone économique exclusive de la Chine. Mais tout ça, très très vite, pose des problèmes très pratiques. D'abord, en termes d'approvisionnement du marché chinois. Comme vous le savez, la Chine est à cette époque-là en phase d'expansion assez considérable de sa population. Elle a donc besoin d'approvisionner son marché. Et d'un autre côté, la restriction des possibilités de pêche dans les eaux territoriales chinoises signifie aussi très concrètement des problèmes d'emploi pour ces pêcheurs. Et donc, ce qu'on voit se développer progressivement, c'est une politique de subvention et d'incitation à la pêche lointaine. Et cette politique d'incitation, elle passe en grande partie par des subventions, notamment des subventions sur les carburants pour les bateaux de pêche, qui vont atteindre, je crois que le sommet sera 6,5 milliards en 2013. Pour l'anecdote, 2013, c'est aussi la date de lancement de la Belt and Road Initiative. Je constate la coïncidence, je n'en déduis pas nécessairement une causalité.
Vous mentionnez que l'agenda de l'UE pour sa stratégie de coopération dans l'Indo-Pacifique est en partie normatif. Qu'est-ce que cela implique pour la relevance de cette stratégie dans l'Indo-Pacifique et sa capacité à répondre aux enjeux?
D'abord, il y a un constat à faire, c'est que l'Europe, c'est aujourd'hui le plus grand marché pour tout ce qui est ressources de la mer, tout ce qui est poissons, fruits de mer, et ainsi de suite. Et donc, l'Union européenne a un rôle prépondérant dans toutes les négociations, dans les organisations liées au respect de l'UNCLOS, dans les relations liées au sein du comité des pêches de la FAO et plus généralement toutes les organisations concernées par la pêche, et ainsi de suite. Et puis, elle a aussi le processus de définition de normes internationales implique l'Union européenne au premier chef. Et après, il y a les politiques plus spécifiques qui permettent à l'Union européenne, pour autant que son marché soit concerné, de faire appliquer ces normes. C'est le cas notamment avec la pêche illégale, avec tout un système de cartes vertes, jaunes ou rouges qui permettent, restreignent ou interdisent l'accès des marchés européens aux bateaux de tel ou tel pays si les pays en question ne font pas ce qu'ils font pour mettre fin à la pêche illégale. Et puis, il y a des dialogues qui sont des dialogues de pêche avec un certain nombre de pays. Et là, évidemment, l'Union européenne joue son rôle et s'efforce de développer les normes qu'elle a par ailleurs contribué ici.
Pourriez-vous nous parler de l'accord Deepwater State Measures Agreement et pourquoi il est crucial de noter que la Chine n'y a pas encore adhéré à ce jour?
Alors, la Chine n'y a pas adhéré, elle n'est pas le seul à ne pas y avoir adhéré, mais elle a une importance particulière dans ce système-là parce qu'elle est le premier pays au monde en termes de pourcentage de capture. Je crois que la Chine, c'est 15% des captures de la planète. Et elle est très loin de ce point de vue-là, devant le Pérou, l'Indonésie, qui sont ses suivants immédiats et qui sont respectivement chacun à peu près 8%. Et l'accord lui-même, c'est un accord qui oblige les États signataires à d'abord vérifier dans un premier temps l'enregistrement des bateaux avant de leur permettre d'accoster et de débarquer leur pêche au port, qui les oblige à conduire un centre d'inspection et à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les bateaux concernés ne transportent pas de poissons pêchés illégalement. Donc, c'est un mécanisme qui interdit quelque part aux bateaux non respectueux de la législation de pouvoir profiter d'une pêche mal acquise. Et c'est un système d'autant plus efficace qu'il y a un système de transmission aux autres pays concernés, si bien qu'il y a une espèce de maillage qui se crée autour des bateaux qui sont coupables de pêche INN en français, qui fait que leur vie devient extrêmement compliquée dès lors qu'ils ont été identifiés comme ne se conformant pas aux règlements internationaux.
Pourquoi l'UE est-elle préoccupée par le positionnement et les évolutions de la flotte de pêche chinoise et la possibilité éventuelle que la Chine puisse l'utiliser comme un substitut de la marine chinoise, qui est-elle une composante de l'armée populaire de libération ?
Alors, ce n'est pas la possibilité, c'est la réalité de cette chose-là. Il suffit de regarder ce qui se passe en mer de Chine du Sud. Comme vous le savez, la Chine réclame en gros 90% de la surface de la zone. Et pour appuyer ses demandes, envoie ses bateaux pêcher en zone, ce qui leur permet ensuite de dire que la Chine dispose de droits historiques. Enfin bref, tout un cirque qui est extrêmement bien connu dans toute la littérature des relations internationales. Et puis, les incidents se multiplient à partir de là. Maintenant, l'Union européenne et tout ça pour permettre à la Chine de s'assurer le contrôle effectif de la zone. Ça ne veut pas dire que la Chine cherche notamment à en interdire l'accès, mais elle cherche à s'en assurer le contrôle. Maintenant, tous les bateaux européens, enfin, tous les pays européens qui commercent avec l'Asie sont d'une manière ou d'une autre amenés à avoir leurs bateaux transités par cette zone-là. Donc, il y a une dépendance à l'égard du bon vouloir de Pékin que personne ne souhaite voir obtenir. Et donc, non seulement l'Europe est concernée, mais elle doit l'être, au même titre que d'autres régions du monde ont à être concernées par ce qui se passe là, mais c'est pas un phénomène distant qui n'a aucune conséquence pour elle. C'est réellement quelque chose de conséquent et important.
Effectivement. Ma prochaine question porte encore sur l'Union européenne. Donc, comment l'activité chinoise en mer impacte-t-elle les intérêts européens? Et pourriez-vous nous expliquer quels pays européens sont spécifiquement touchés et qu'ont-ils fait à ce jour?
D'abord, il y a plusieurs types d'impact. On a parlé de l'affaiblissement, voire d'effondrement, dans certains cas, de la ressource en poissons dans certains océans du globe. dans l'océan Indien, dans une partie du Pacifique, et ainsi de suite. Il est bien clair que dès lors que la Chine est le plus important, des bateaux contribuent à ça et qu'elle ne se conforme pas toujours, voire pas très souvent, aux règlements internationaux, il y a un problème, et qui est un problème qui affecte tous les pays, européens ou non d'ailleurs, mais européens aussi, qui pêchent dans les zones concernées. Ensuite, il y a l'impact géopolitique dont on vient de parler. C'est l'impact direct, la revendication territoriale sur des zones économiques exclusives, que la Chine affirme être la sienne et que, évidemment, les États concernés lui refusent, mais dont l'appropriation par la Chine aurait des conséquences pour la liberté de navigation et pour un certain nombre d'États concernés par qui transitent à travers la zone. Et puis, il y a d'autres phénomènes. Tous les gens qui ont suivi la question de la piraterie au large de la Somalie savent qu'avant d'être un problème de crime organisé, la piraterie était la conséquence locale de la surpêche, et notamment surpêche liée à la pêche INN. La Chine n'était absolument pas responsable de cette situation puisqu'elle était, elle était assez peu présente dans l'océan Indien à cette période-là. La Chine a été invitée à participer à l'effort contre la piraterie, on a profité pour s'installer dans la zone, elle a aujourd'hui une base à Djibouti, ainsi de suite. Mais de fait, on voit beaucoup plus de bateaux chinois opérer sur l'ensemble de la zone. Si vous lisez le rapport de Crimario, qui est un programme de surveillance du domaine maritime développé par l'Union européenne, vous vous rendez compte que tous les États, depuis l'Iran jusqu'à l'Afrique du Sud, se plaignent des pratiques de pêche illégale de la Chine. Si vous suivez l'actualité récente, vous avez eu un mois de protestation dans le port pakistanais de Gwadar, dans la province du Balochistan, Pakistan, qui était lié aussi à la pêche chinoise illégale. Donc, il y a aussi une question immédiate ou à moyen et long terme. En tout cas, il y a un risque de déstabilisation de certaines zones, pas de toutes, mais de certaines zones. Et à ce moment-là, comme pour la Somalie, les États qui sont intervenus étaient essentiellement des États européens. Et puis, il y a d'autres situations plus locales. En 2018, par exemple, la Chine a signé une espèce d'accord secret sur la pêche avec Madagascar, dont une partie a chuté. Et cet accord aurait autorisé une pêche chinoise qui faisait plus que doubler les quotas permis pour la pêche durable. Donc, c'est une situation qui aurait été invivable, aurait certainement poussé les pêcheurs malgaches à aller pêcher dans les eaux territoriale française, des éparses, Tremblant et compagnie. Or, vous le savez, il y a un différend entre la France et Madagascar d'un côté, la France et Maurice sur la propriété de ces territoires-là. Or, il y a des discussions en cours. C'est clair que si on a vu un système de pêche chinoise plus développé, enfin, des conséquences indirectes dans cette zone-là, le problème aurait été exacerbé. Et puis, c'est des choses qu'on a déjà observées ailleurs. Il y a quelques années, le problème a été résolu depuis. Le pillage délibéré des eaux vietnamiennes par les pêcheurs chinois a conduit les bateaux vietnamiens à venir pêcher dans les eaux territoriales de Nouvelle-Calédonie. Donc, ce n'est pas un problème abstrait, c'est un problème bien, bien, bien réel. Et voilà, donc la France a pris un certain nombre de mesures. D'abord, à Madagascar, le gouvernement a changé, l'accord a été suspendu. En Nouvelle-Calédonie, et là, le problème a été résolu partiellement par les forces françaises sur place et la négociation avec le gouvernement vietnamien, et ainsi de suite. C'est un ensemble de mesures qui est pris et qui suit. Et puis, il y a aujourd'hui une bien meilleure surveillance de toute la zone qu'il n'y avait encore à l'époque. Le programme Crimario, comme je le disais, est un programme de surveillance du domaine maritime. Et c'est un programme qui a démarré précisément dans le sud-ouest de l'océan Indien, qui aujourd'hui a une deuxième composante qui se trouve dans le golfe du Bengale et qui en aura probablement une troisième qui va être dans le Pacifique Sud. Donc, c'est des choses qui se mettent en place. Voilà le genre de choses que fait l'Union européenne. Et vous ajoutez ça, bien entendu, aux politiques déjà décrites dans cet entretien.
Merci beaucoup d'avoir décortiqué les enjeux en Indo-Pacifique pour l'Union européenne. Pour finir, nous allons aborder sur trois points les différents aspects des recommandations politiques que vous énoncez dans votre article. Premièrement, qu'est-ce que le mécanisme coordonné de présence maritime et pourquoi pensez-vous que celui-ci est particulièrement adapté pour l'Indo-Pacifique ?
Le mécanisme de présence maritime coordonnée, c'est comme son nom l'indique, une simple coordination de la présence des bateaux européens dans telle ou telle zone. Et c'est surtout la transmission d'informations sur ce qui se passe dans la zone. Donc, c'est quelque chose qui permet d'avoir une bien meilleure vision sur les activités conduites par les uns et les autres dans une région donnée, un océan donné, enfin bref. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je pense qu'il serait plus adapté? Parce que la réalité de la présence européenne dans l'Indo-Pacifique, c'est qu'elle est faible et qu'il serait illusoire de s'imaginer que soudainement, tous les États européens vont se mettre à construire des bateaux en masse qui leur permettront d'avoir un contrôle absolu sur toute la zone. Donc, à partir de là, utiliser les ressources existantes et les faire interagir entre elles, c'est probablement quelque chose de raisonnable, puisqu'il y a transmission des informations aux bateaux et aux États littoraux concernés, ce qui permet d'assurer un minimum d'action. Est-ce que c'est un système parfait? Certainement pas, pour au moins deux raisons. D'abord, parce que la faiblesse des capacités que je mentionnais à l'instant s'applique aussi au mécanisme de présence maritime coordonnée. Évidemment, moins il y a de bateaux, moins il y en a à coordonner et plus le mécanisme est faible. Et puis de l'autre côté, parce que évidemment c'est un mécanisme qui est encore discuté, il existe aujourd'hui à l'état expérimental dans le golfe de Guinée. L'intention est de le porter vers l'océan Indien, mais que tout ça se fait au rythme européen, c'est-à-dire relativement lentement.
On note également dans votre article que la gestion des pêches doit être à l'ordre du jour des dialogues européens sur la sécurité maritime. N'est-ce pas déjà le cas et que peut-il être fait de plus pour consolider cet objectif?
Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il y a des dialogues sur la politique de pêche, il y a des dialogues sur la gouvernance des océans. Ça, ça existe. Là où ça pose problème, c'est la prise en compte de la gestion des pêches comme un problème de sécurité nationale. Et là, vous avez des divergences entre États membres, entre par exemple la DGMAR, qui parle essentiellement de gouvernance des océans, et puis le service d'action extérieure, qui lui est prêt à considérer la pêche aérienne, par exemple, comme un problème de sécurité maritime aussi. Jusqu'à quel point c'est un problème, ça, c'est quelque chose de discutable. Il y a en tout cas un certain nombre d'impacts stratégiques de la pêche, et à ce titre-là, je pense pour ma part qu'elle devrait être prise en compte dans les dialogues de sécurité maritime. Ceci dit, si vous regardez le texte de la communication conjointe sur la stratégie de coopération de l'UE dans l'Indo-Pacifique, vous voyez que la pêche illégale est aussi bien prise en compte dans les questions liées à la sécurité maritime qu'elle l'est dans la gestion des océans. Et le texte en tant que tel fournit une espèce de cadre stratégique où les actions prises avec un objectif spécifique, sécurité ou au contraire gestion des océans, se complètent relativement bien. Alors, est-ce que ce système est parfait? Certainement pas, mais au moins on a un texte cadre qui permet d'évoluer dans ce système-là et de prendre en compte des réalités qui, elles aussi, bougent. On ne parlait pas de la pêche chinoise comme d'un problème géopolitique il y a encore 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, c'est une espèce d'évidence pour tous les gens qui suivent le sujet. Ça ne l'était pas il n'y a pas si longtemps encore. Donc, il est normal que les institutions aient un peu de retard à l'allumage, si je puis dire, sur ces questions-là. Et on est allé assez vite dans l'évolution de la perception du problème par rapport à d'autres questions qui continuent de se poser.
Merci. Alors, troisièmement, et pour finir, que devrait faire l'UE pour accroître et affirmer ses exigences de transparence et construire une meilleure connaissance des activités illégales qui s'opèrent en Indo-Pacifique?
Alors, elle conduit un certain nombre d'activités, mais ce qu'elle fait est assez peu connu en dehors de la Commission elle-même et des ministères spécialisés dans les États membres. Donc, il y a, à mon sens, un besoin de publicité sur ce que fait l'UE. C'est pas d'ailleurs, ça ne s'applique pas seulement à la pêche. Un des problèmes de la légitimité de l'UE dans un certain nombre de pays, c'est que personne ne sait ce qu'elle fait, alors qu'elle fait en réalité pas mal de choses. Donc, il y a un travail à faire pour mettre en évidence ce qu'elle fait, y compris dans ce domaine-là. Mais je pense qu'on pourrait aussi utiliser la problématique du moment pour en faire la Chine et la question géopolitique qui aujourd'hui se pose dans des questions très différentes pour mettre la question en exergue d'une autre manière. On pense notamment à l'organisation de grandes conférences internationales qui réuniraient l'ensemble des acteurs concernés, États, organisations de pêcheurs, ONG spécialisées et ainsi de suite. Parce que ce genre de grand raout est minimement critiquable sur un tas de choses, mais que malgré tout, il donne une visibilité à des problèmes qui restent confinés aujourd'hui au sein des organismes professionnels concernés. Il faut bien prendre en compte une chose. Par rapport à d'autres problèmes, la pêche, c'est quelque chose qui concerne des millions et des centaines de millions de personnes de par le monde. Pas seulement en tant que consommateur, mais également qui concerne, d'abord, qu'il y a un fort potentiel de mobilisation, et c'est quelque chose qui concerne des catégories de population qui ne sont souvent pas les plus à même de se faire entendre sur la scène internationale. Et donc là, il y a un contexte où l'Union européenne pourrait prendre l'initiative de développer. Encore une fois, le but du jeu, ce n'est pas d'interdire à tel ou tel État de pêcher, c'est simplement de faire en sorte que les pêches se conforment à la réalité de l'évolution des espèces et du milieu, et de faire en sorte que l'ensemble des États, à commencer par les plus importants acteurs, et la Chine en fait partie, se conforment à la régulation internationale pour que tout ça devienne à peu près durable. Et qu'on cesse aussi de jouer avec ça pour des questions de géopolitique.
C'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Je tiens à chaleureusement remercier mon invité, le docteur Frédéric Grard. Où pouvons-nous vous trouver en ligne et sur quoi travaillez-vous en ce moment, docteur?
Okay, moi, je continue à travailler sur les questions liées à la fois à l'Asie du Sud et puis à l'Indo-Pacifique. Et vous pouvez trouver mes travaux en ligne sur le site du European Council on Foreign Relations, le CFR, que n'a aucun mal à trouver sur Internet.
Effectivement. Merci, et à nos auditeurs, merci d'être à l'écoute et à la prochaine.